France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Alaume à la réalisation, Etel Alzial à la préparation, Djoubaka au choix des disques, Alex Olarewaju Otinoa à la console. On dit de lui qu'il est le véritable fondateur de la philosophie moderne. On dit de lui qu'il incarne la France et que nous serions, par nature, en adéquation avec son esprit. Hegel voyait en lui un héros et Flaubert aurait rêvé de passer un moment avec lui. Les éditions de la Pléiade publient deux volumes de ses œuvres, l'occasion pour nous de consacrer notre émission à René Descartes.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Moi qui pense, je suis. Je pense donc, je suis. Moi, je suis. Moi, j'existe.
Merci à Fabrice Drouel d'avoir prêté sa jolie voix à la pensée de Descartes pour mieux le connaître, ce grand homme dont on a beaucoup simplifié la pensée. Deux invités, Denis Cambouchner, auteur de l'introduction de cette nouvelle édition donc de Descartes dans la Pléiade, édition qu'il a donc dirigée, et Annie Bidbol-Espériès qui a largement, je crois, contribué à cette même édition. Denis Cambouchner, vous écrivez, je crois, dans votre introduction, « L'événement Descartes, près de 4 siècles plus tard, continue de nous solliciter ». Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est un philosophe incontournable ?
Ah, eh bien, il y a sa place dans l'histoire de la philosophie telle que nous la connaissons et telle que nous l'enseignons. Et indiscutablement, Descartes est au milieu.
Mais il y a eu un avant et un après ?
Oui. Un avant et un après.
Un avant Descartes et un après Descartes.
Alors, bon, on parle de la révolution cartésienne.
Oui, mais ça, c'est postérieur.
Descartes premier, en effet, premier penseur de la modernité, c'est un peu schématique.
Bien sûr, mais nous sommes là pour éviter les schémas, grâce à vous.
Absolument. Oui. Donc l'enjeu, c'est justement d'éviter les schémas, car étant donné la position phare, qui est toujours celle de Descartes, dans la représentation qu'on se fait de l'histoire de la pensée occidentale, européenne, française, et le fait que ça se répercute toujours dans les classes de philosophie et à l'université.
Mais pas seulement, parce que si on dit, je sais pas, vous faites un micro-trottoir, vous sortez, vous demandez aux personnes « je pense donc je suis », je crois que beaucoup de personnes vous diront que c'est Descartes.
Oui, chaque personne connaît un petit quelque chose de Descartes. Donc, c'est un philosophe qui est plus célèbre que plusieurs autres de son siècle, qui sont éventuellement des esprits aussi grands. Si vous parlez à une personne dans la rue de Hobbes, de Malebranche, de Leibniz, vous ne le verrez pas du tout.
Et pourtant, ils doivent beaucoup à Descartes.
Oui, enfin, Hobbes, c'est un rival.
Mais
vous n'aurez pas du tout le même écho. Mmh. Donc, c'est un nom phare. Et
Descartes, comme c'est un nom, oui, pardon. Oui, oui, je vous en prie.
Et comme c'est un nom phare, il y a beaucoup de significations et d'idées qui s'agrègent à ce nom, et tout de même beaucoup de préjugés s'agissant.
Nous allons les déconstruire. Il s'est très vite imposé comme un grand philosophe dans toute l'Europe, pas seulement en France.
Tout de suite. Tout de suite. C'est quelqu'un qui commence à publier à l'âge de 41 ans. Il est né en 1596. Le discours de la méthode, plus les essais scientifiques, dioptrique, c'est-à-dire l'optique, météore, la météorologie, les phénomènes atmosphériques, la géométrie, 1637, il a 41 ans. C'est exceptionnellement âgé pour l'époque. Mais
et
ça
il
veut
est
dire
mort à 54
beaucoup...
ans, donc il n'a pas publié pendant beaucoup de temps.
Non, c'est très très ramassé, mais ça veut dire que le temps de préparation a été extrêmement long. Et que quand il publie, il est sûr de son fait.
C'est un homme déjà mûr.
Il sait ce qu'il a construit. Il revient sur ses pensées, l'histoire de ses pensées, il annonce ce qui va suivre, et effectivement, ça fait événement immédiatement dans l'Europe savante. Il faut dire que c'est un penseur européen, qui a beaucoup voyagé, qui est en relation avec toutes sortes de savants et philosophes, et que l'information circule très bien, notamment grâce à une organisation de la Poste qui est absolument extraordinaire.
Déjà à l'époque. Annie Bidbol-Espériès, Descartes, incarnation du génie français ?
On peut le dire. On peut le dire par la variété des thèmes qu'il a abordés. Ça, c'est une chose absolument essentielle à retenir. Descartes est d'abord un grand scientifique avant d'être un profond métaphysicien. Et le discours de la méthode, publié avec les essais scientifiques, prouve à quel point Descartes connaît les sciences. Ça, c'est fondamental. Mais en plus, il rédige un discours de la méthode, parce que le XVIIe siècle, c'est aussi un moment de grande diffusion de l'imprimerie. Et parmi les livres imprimés, il y a des fausses sciences. Et Descartes, ce qui
m'intéresse... Il y avait déjà des fake news à l'époque.
Voilà, il y en avait beaucoup. Et puis, il y avait des faux savoirs, les astrologues, par exemple. Et puis... Descartes se méfie de tous ces faux discours scientifiques et il veut chercher la vérité dans les sciences. Et pour cela, il faut une méthode. Mais cette méthode, on va se rendre compte en lisant le discours et les essais, qu'elle consiste plus en pratique qu'en théorie. Ouais. Et c'est ça, au fond, ce qui est très attachant dans ce premier livre publié par Descartes, c'est que il nous montre une nouvelle manière de concevoir les sciences tout en les fondant. Et ça, c'est extrêmement important.
Ce qui est, alors, il y a beaucoup de philosophes qui sont intéressés aux sciences, à la science, mais
bien sûr,
va parler avec vous, évidemment, c'était un grand féru de médecine, Descartes, mais il s'est intéressé aux questions d'optique, d'acoustique, de cosmologie, de physique, il s'est intéressé à tout, on a envie de dire.
Absolument, et il est, et ça aussi c'est fondamental, Descartes en science, c'est quelqu'un qui est le seul héritier en Europe de la grande année 1543. C'est-à-dire que ce qui caractérise la démarche scientifique de Descartes, c'est son extrême cohérence. En physique, en cosmologie, comme en anatomie, il est l'héritier de Copernic, de Kepler et de Galilée, d'un côté, et de l'autre, il est l'héritier de Vésale, le grand réformateur de l'anatomie, Vésale actualisé par Bohun. Et ensuite, il est celui qui va se situer dans le sillage de la plus grande découverte du XVIIe siècle en médecine, c'est-à-dire la découverte de la circulation du sang.
Avec des démonstrations qui se doivent d'être infaillibles.
Absolument.
Ça, c'est son truc.
Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mêlent de donner des préceptes se doivent estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent, et s'ils manquent à la moindre chose, ils en sont blâmables. Mais ne proposant cet écrit que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux, que comme une fable.
Franck Olivard, lui, de France Inter aussi, et qui a prêté sa voix à la pensée de Descartes également. La méthode Descartes considérée comme une fable, je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que vous voyez ça comme ça, Denis Kampouchner ? Vous froncez un peu les sourcils.
Vous voulez dire discours de la méthode, oui.
Le discours de la méthode, oui. Quand je dis la méthode, c'est le discours de la méthode.
Descartes expose, raconte sa vie.
C'est le récit
intellectuel.
C'est le texte le plus autobiographique, non ?
Ça lui avait d'ailleurs été demandé de longue date par ses amis parisiens, avant même qu'il quitte Paris et la France pour les Pays-Bas, les Provinces Unies.
Il a été un petit peu obligé de partir, non ?
Pas du tout, non. Il voulait partir pour être au calme, pour travailler tranquillement, à l'abri des visites nous importune. Voilà. Et alors, il présente sa vie comme une fable. Il y a d'ailleurs tout un thème cartésien de la fable, y compris en physique, la fable du monde, enfin la fable de la... Mais ça ne veut pas dire que c'est une fiction gratuite. Non, ça veut dire simplement que c'est raconté d'une certaine manière. Et je crois que dans l'extrait qui vient d'être très bien dit, on sent l'exquise courtoisie. C'est quelqu'un qui s'adresse à son lecteur avec une délicatesse extraordinaire. Et il y a un art d'écrire de Descartes qui est sensible dès les premières lignes du discours de la méthode. C'est un grand styliste, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup exercé sur le plan littéraire. C'est une des dimensions multiples de son œuvre. Et donc, il donne une autobiographie très élégante, évidemment, en faisant ce qu'il appelle en ombrageant certaines choses. C'est-à-dire, il laisse dans l'ombre certains éléments pour insister sur certains autres. Quant à la méthode, c'est compliqué parce que, comme l'a rappelé Annie, elle consiste plus, dit-il, en pratique qu'en théorie. Donc, c'est difficile d'en faire un exposé comme ça, abstrait. Et Descartes lui-même s'y est essayé, mais pas toujours avec succès. Mais c'est une réalité, c'est une discipline intellectuelle qu'il a faite sienne.
On a bien compris qu'il n'aimait pas trop qu'on pousse sa porte comme ça, sans prévenir. Oui. C'était un solitaire. On a dit aussi des choses de lui, et ça j'en viens, parce que vous avez publié deux livres, un folio, La question Descartes, et puis Descartes n'a pas dit, qui tord le cou un peu à toutes ses idées. Est-ce que c'était un solitaire, peut-être un ours, ça pas forcément, autocentré, dépourvu d'affect, tout ça c'est faux ?
Tout ça c'est
faux. Oui, c'est faux. C'était pas forcément un homme commode.
Oui, mais bon.
Mais c'était un gentilhomme.
Oui.
Enfin, issu de ce qu'on appelait la noblesse de robe, les familles de magistrats, avec une éducation tout à fait perfectionnée. Donc, sa correspondance témoigne d'une très grande urbanité. Correspondances très nombreuses. Et donc, effectivement, il se souciait d'être au calme, d'éviter les importuns, pour se concentrer sur ce qu'il considérait comme son œuvre, son travail. Mais non, ce n'est pas du tout un égocentrique. D'ailleurs, il y a une théorie cartésienne de la générosité, une morale de la générosité, qui est le contraire de l'égocentrisme.
Annie Bidbol-Espériès.
Non, Descartes est reconnu quand il quitte Paris. Il est reconnu pour ses talents en mathématiques, en physique. Aux Pays-Bas, il a des amis qui sont des scientifiques, qui sont des philosophes, qui sont des théologiens. Donc non, Descartes n'est pas un génie solitaire. Et quand il dissèque, il ne dissèque pas toujours seul, bien sûr. Donc non, Descartes est inséré dans un réseau d'amis, de correspondants. Et vraiment, ce que dit Denis est parfaitement exact. Vraiment. Le génie solitaire, non, ça n'est pas Descartes.
Et ça, nous allons en parler de la dissection, parce que c'est évidemment un des reproches qu'on lui fait.
Pour ne rien vous cacher, je voudrais donner au public une science toute nouvelle, par laquelle on puisse résoudre tous les problèmes possibles en n'importe quel genre de quantité continue ou discontinue.
Une science toute nouvelle, une philosophie assez neuve aussi, mais pour autant, c'est pas un homme qui a fait du passé table rase. Ce qu'on lui reproche aussi quelquefois, c'est-à-dire de n'avoir pas considéré ceux qui l'avaient précédé, Denis Kambouchner.
Alors, ce qui vient d'être cité, c'est un texte de jeunesse, une lettre qui porte sur ses premiers travaux mathématiques. Donc, vous disiez, pardon ?
Non, on lui a reproché d'être un peu, c'est moi, d'être un peu égotique en quelque sorte, et de ne pas tenir compte de ceux qui l'avaient précédé.
Pardon.
Ça aussi, c'est faux.
Disons que, non, il y a un fait qui est que Descartes entend, d'une certaine manière, recommencer la philosophie. C'est vrai. C'est-à-dire... Il y a cette recherche de la certitude en philosophie à laquelle il donne une
dimension nouvelle.
Une dimension totalement nouvelle. Donc c'est une grande invention. Les méditations métaphysiques résumées dans le discours de la méthode, quatrième partie ou annoncée. C'est un geste intellectuel qu'on n'avait vraiment jamais accompli. À part ça, C'est un geste qui est accompli en vue d'un programme philosophique qui est d'une certaine manière déjà tracé, beaucoup plus large. Il s'agit de préparer l'exposé de la physique, de la physiologie et d'autres rubriques, d'autres parties de la philosophie. Et donc, comme tout ça est accompli avec beaucoup de méditation. Et en pleine conscience tout de même de ce qui a été fait avant.
C'est ça. Une entreprise infinie qui dépasse un seul homme, dit d'ailleurs Denis Cambouchner pour parler de Descartes. C'est votre avis aussi, Annie Bidbol-Espériès ?
Oui, ça dépasse un seul homme, mais Descartes a d'abord dit c'est pas l'œuvre d'un seul, hein, ça c'est vraiment important, il le dit dès sa jeunesse, mais ensuite quand même, c'est bien lui qui s'attache à essayer de réformer le corps des sciences, et c'est bien lui qui s'attache à publier une œuvre qui est ouverte. Hein. N'oublions pas que dès la publication du discours de la méthode, avec les essais, Descartes envoie un certain nombre d'exemplaires à des amis et qu'il attend des objections. Ce sera la même démarche lorsqu'il publiera les méditations métaphysiques. Hein. C'est une œuvre qui est une œuvre en discussion. Descartes sait parfaitement qu'il apporte des nouveautés considérables. Mais ces nouveautés considérables, elles suscitent des discussions que Descartes accepte. Mais il exige de ses lecteurs qu'ils le lisent sérieusement. C'est pourquoi toutes les objections ne sont pas reçues de la même manière. Mais Descartes y répond, et quelquefois il est agacé vraiment par certaines questions, parce que ses lecteurs n'ont pas été assez attentifs. Et du reste, le texte des Méditations métaphysiques est extraordinaire, parce que quand on le lit, on voit bien que Descartes demande un effort au lecteur, mais il lui dit de ne pas lire tout d'un coup. On a un découpage du temps dans les méditations. Et c'est un exercice intellectuel qui vaut le coup d'être refait, comme Descartes nous le conseille.
Mais c'est étrange parce qu'en vous écoutant, je me dis que ça ressemble un peu peut-être, enfin je peux peut-être dire une énormité, hein, mais à la façon de travailler d'un Spinoza, ou je me trompe ?
C'est quand même assez différent.
C'est différent.
C'est deux personnalités différentes.
Non, les personnalités certainement. Mais est-ce que bon, sur le fait de compter aussi sur l'apport d'autrui pour faire avancer sa pensée ? Non, c'est pas ça.
C'est très différent.
D'accord. On disait tout à l'heure, Descartes est mort assez jeune, hein, 54 ans. Les bruits ont circulé, la rumeur qu'il était mort empoisonné. C'est faux pour vous.
Je pense que c'est tout à fait inexact. Hein. La rumeur a circulé au XVIIe siècle, mais au XVIIe siècle, c'est le siècle où il y a beaucoup d'empoisonnements. Mais on a eu récemment une nouvelle proposition. Le professeur Hébert a prétendu que Descartes avait été empoisonné par une hostie donnée par l'aumônier de l'ambassade de France, l'aumônier de Chanus.
Alors moi, je ne crois pas du tout à cela.
Et non, ça me paraît tout à fait faux, à la fois pour des raisons historiques qui tiennent à la cour même de Christine de Suède et qui tiennent aussi à des raisons médicales. Parce que le professeur Hébert prétend que l'infusion de tabac que Descartes demande lui fait penser à lui, Descartes, qu'il est empoisonné. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux parce que si on se replonge dans les traités médicaux et pharmaceutiques du XVIIe siècle, et surtout à la cour de Suède et dans les pays du Nord, parce que la France a du retard en médecine, même pour les remèdes aussi, eh bien, on voit que le tabac, ça va nous choquer, le tabac est effectivement utilisé dans les maladies pulmonaires. Hein, parce que le tabac permet d'expectorer toutes les glaires, etc. Donc, quand Descartes demande son infusion de tabac, c'est effectivement parce qu'il souffre du poumon, comme a souffert Chanus juste avant, mais Chanus, l'ambassadeur de France qui reçoit Descartes, eh bien, si vous voulez, non, Descartes n'a pas pensé qu'il était mort empoisonné, ça j'en suis absolument certaine, et je pense que l'analyse du professeur Hébert est fausse sur le plan historique et sur le plan médical.
Vous écoutez L'Heure Philo, nous nous employons, vous l'aurez compris, à démêler le vrai du faux au sujet de Descartes et surtout à considérer ce qu'il a apporté portée à la science et à la philosophie à l'occasion donc de la parution de cette nouvelle édition publiée dans la Pléiade. Denis Cambouchner et Annie Bidbol-Espériès nous apportent leur savoir et nous éclairent.
Présumez que mon esprit fut en rien plus parfait que ceux du commun.
Voilà une chanson qui va bien à Descartes. C'était Aretha Franklin, Lionel Nakache, neuroscientifique et neurologue bien connu.
Alors pour moi, un élément fondamental pour moi de la pensée de Descartes, c'est ce qu'on va appeler l'opération de mise entre parenthèses. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Descartes se demandait vraiment quelles sont les preuves de mon existence, le fait de pouvoir douter, exercer le doute sur tout ce qui l'entoure, il trouve une seule chose qui peut résister à cette mise entre parenthèses. Est-ce que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas, donc ça je m'en occupe pas. Il reste une chose, il reste son activité pensante. C'est-à-dire que le fait de penser, l'activité de penser, quel que soit son contenu, et je le traduis aujourd'hui, la vie mentale consciente, quels que soient ses contenus, ça c'est le socle de base à partir duquel on peut définir notre existence. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une découverte à la fois géniale et profondément intemporelle sur laquelle on peut construire aussi une science de la subjectivité.
Une science de la subjectivité, dit Lionel Nakache. Qu'en pensez-vous, Denis Cambouchner ?
Alors oui, indiscutablement, il y a il y a des développements naturellement de Descartes lui-même sur les formes de notre pensée. Et si on pense à ce grand courant de la philosophie contemporaine, je veux dire du XXe siècle, qui a été la phénoménologie, il y a un ancrage de la phénoménologie par Edmund Husserl dans un sol cartésien. Ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est que si on trouve chez Descartes une analyse de la pensée dans ses diverses modalités, dans ses divers registres, l'entendement pur, l'imagination, ce qu'il n'appelle pas la sensation, c'est pas un mot qu'il utilise en français, les perceptions des sens, et les passions, les émotions, s'il y a des développements cartésiens assez importants sur chacune de ces choses, et son dernier ouvrage, c'est
le traité des passions de l'âme. Qu'il a écrit très peu de temps avant de mourir, d'ailleurs.
Il l'a écrit en deux fois, une fois pour la princesse Élisabeth de Bohême, qui était sa correspondante favorite. Quelques années avant, en 1645, et puis ensuite il l'a remanié peu avant de mourir, effectivement, en 1649.
Mais qu'est-ce que c'est exactement que le cogito ? dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce que ça recouvre. Qu'est-ce que ça veut? Parce que on se dit que penser par soi-même aujourd'hui, c'est quand même d'une incroyable actualité.
Alors, oui. Est-ce que le cogito? Bon, naturellement, il y a une ambition cartésienne de penser par soi-même, c'est-à-dire vérifier le contenu de ses propres jugements. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'erreurs à faire, à éviter sur le bon sens cartésien et sur l'autonomie de la pensée cartésienne. Il ne s'agit pas de se dire « moi j'ai raison d'avance hein. ». Au contraire, c'est une pratique de l'examen. Et c'est une pratique de l'examen
et de
dans laquelle et de,
de
l'autocritique,
enfin,
mais surtout, je dois sans cesse me demander si ce que je dis est fondé, si j'ai des connaissances suffisantes pour affirmer ce que j'affirme, et sans cesse donc faire le départ, la différence entre les choses dont je suis en état de juger et celles dont je ne suis pas en état de juger. Et ça, c'est très, 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 très important. Toute cette discipline qui consiste à vérifier qu'on est en état de juger.
Et ouais. Cette discipline qui peut-être conduit vers une forme, en tout cas, je parle avec prudence, de liberté.
Oui.
Annie Bidbol-Espériès.
Oui, incontestablement. Oui, 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 vraiment. Descartes, c'est vraiment celui qui veut fonder le savoir, qui veut le diffuser. Ça aussi, c'est très important. L'usage de la langue française en science, chez Descartes, est un usage très remarquable. Hein ? Il veut un public large et il diffuse vraiment des vérités importantes à connaître. C'est le cas dès l'instant qu'il rédige son premier traité, qu'il ne publiera pas à cause de la condamnation de Galilée, mais dès qu'il veut publier « Le monde » avec l'homme, Descartes veut absolument livrer au public des vérités nouvelles et surtout, il veut apaiser les craintes que le public peut avoir. Car enfin, se rendre compte que les mouvements des planètes que nous voyons ne correspondent pas aux explications scientifiques que l'on nous donne, c'est très perturbant. Et il faut se souvenir du choc qu'a été la réception de l'héliocentrisme copernicien. D'accord, c'est Freud parle de première blessure symbolique, mais si vous voulez, c'est vrai. Et au fond, la science de Descartes, elle est faite pour nous rassurer. Ses exposés sont toujours faits pour nous rassurer. C'est aussi un des enjeux de la fable du monde. S'il présente la fable du monde de cette manière aimable, de cette manière rédigée dans un style magnifique, c'est effectivement pour qu'on puisse apprivoiser les sciences. D'accord ? Et c'est la même chose dans le discours de la méthode, dans la cinquième partie, quand il nous explique cette chose absolument inouïe au XVIIe siècle, que le sang circule dans notre corps. Enfin, c'est vraiment cette découverte géniale de Harvey. C'est quelque chose qui va mettre du temps en Europe à être admis, particulièrement en France. Souvenons-nous des médecins de Molière. Le malade imaginaire, c'est 1673, et la découverte de Harvey, c'est 1628. Descartes parle de la découverte de Harvey dans son premier ouvrage publié, Le discours de la méthode, la cinquième partie du discours de la méthode, c'est un exposé magistral de la circulation du sang fondé sur des expériences de Harvey que Descartes a toutes refaites. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que la science que nous dispense Descartes, c'est une science qui repose sur des expériences, qui repose sur des dissections.
Parlons-en. On lui a beaucoup reproché d'avoir procédé à des dissections. À vous lire, on voit bien que d'abord, il a fait des dissections sur le corps humain aussi, et sur les animaux. C'est ça surtout qu'on a retenu finalement à charge contre lui. En quelque sorte. Alors d'abord, il faut le resituer dans le temps. Et puis, qu'a-t-il fait exactement, en fait ?
Alors, il faut, oui, là aussi, il faut être très clair. J'ai dit tout à l'heure que Descartes se situe dans le sillage de l'année 1543, c'est-à-dire de Vézal. Vézal est le premier à nous dire que les dissections...
Donc André Vézal. C'était de on peut dire c'était de la science anatomique avec lui.
André Vézal, c'est la rénovation de la science anatomique. Hein, il est celui qui dit qu'il va restaurer la science perdue des parties du corps humain. D'accord ? Comment la restaurer? C'est très simple. Vézal dit, il faut disséquer des corps humains, et non pas uniquement des corps d'animaux, et extrapoler d'après les corps d'animaux vers les corps humains. Donc, il faut disséquer et il faut réformer l'enseignement de l'anatomie. C'est ce que montre Vézal lui-même dans son livre, le frontispice, la page de titre de Vézal, c'est un manifeste méthodologique. C'est le professeur d'anatomie qui doit lui-même disséquer les corps. Et il ne doit pas uniquement se baser sur Galien. Il doit dénoncer les erreurs de Galien, de ce grand maître de l'Antiquité en médecine.
Mais
voilà.
Alors Descartes et sa bande, puisqu'il vous l'avait dit tout à l'heure, il ne travaillait pas tout seul, et il allait vous raconter ça aussi, il allait chez le boucher chercher des organes d'animaux également qu'il rapportait chez lui et sur lesquels il travaillait.
Descartes dit très bien dans une lettre à Mersenne que pendant l'hiver 1629, il habitait à Amsterdam dans la Kalverstraat, c'est-à-dire la rue des veaux, autrement dit la rue des bouchers, qui le fournissait en organes frais. Descartes suit Vézal, il suit Bohun, tous ces grands anatomistes qui ont dit que pour disséquer, il faut disséquer des organes frais. D'accord.
Et de préférence l'hiver.
Et bien sûr l'hiver, pour des raisons évidentes de conservation. D'ailleurs, les leçons d'anatomie n'avaient lieu que l'hiver, d'accord. Et il y avait peu d'universités dans lesquelles on disséquait des corps humains. Et Descartes dit, ce n'est pas un crime d'être curieux de l'anatomie. Et il faut se souvenir que les dissections de corps humains, quand on lit bien les traités d'anatomie, qui contiennent tout plein de considérations que Descartes va rejeter, hein, Descartes, c'est celui qui dit aussi que les traités d'anatomie doivent être précis, et ils ne doivent pas et que les anatomistes ne doivent pas toujours grossir leurs livres par des tas de considérations. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vise là? Il vise les considérations théologiques, les considérations finalistes qui font partie, et il vise les éloges du corps humain. Mmh. Pour Descartes, il faut supprimer ça des traités médicaux. L'anatomie, ça n'est pas une science qui est faite pour faire l'éloge de la main, l'éloge de l'œil, l'éloge de l'oreille, etc. D'accord. L'anatomie, c'est une science qui doit nous décrire les organes et nous expliquer le fonctionnement même du corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va falloir nous expliquer les mouvements qui se déroulent à l'intérieur du corps.
Et là, vous parliez de circulation sanguine. Effectivement,
exactement.
C'est une révolution.
C'est une révolution.
Denis Cambouchner, quand on dit aussi, on s'arrête sur cette phrase de Descartes qui voulait rendre l'homme maître de la nature. Oui. Quels sont les rapports de Descartes avec la nature, cette domination qui aujourd'hui, évidemment, connaît une résonance particulière?
Oui. Alors, comme tous les mots chez Descartes ont leur importance, il s'agit de rendre les hommes comme maître et possesseur de la nature, et étant entendu que le vrai maître et possesseur de la nature, c'est Dieu. Et j'aurais d'ailleurs ajouté à votre question tout à l'heure que le cogito, je suis, j'existe, me permet de me reconnaître moi-même comme une chose qui pense, mais Descartes ne s'arrête pas là, dans son trajet métaphysique. La considération que j'ai de moi-même et des idées qui sont en moi me mène à la certitude de l'existence de Dieu, à partir de quoi Dieu garantit en quelque sorte la vérité de mes idées quand elles sont claires et distinctes, et à partir de là je peux reconquérir la certitude de mon propre corps et du fait que je suis uni à mon esprit est uni à un corps et que beaucoup d'autres corps existent autour. Mais donc n'oublions pas le Dieu de Descartes. Le Dieu de Descartes est absolument capital dans l'édifice philosophique qui est proposé.
C'est-à-dire que ça veut dire que sans Dieu, le monde n'est pas pensable pour lui.
C'est
un principe.
Dieu a tout créé et nous conserve dans l'existence et a établi les lois qui sont dans la nature. Mm-hmm. Et sans référence à Dieu, c'est pas possible de construire une vraie science.
Je vous pose la question parce qu'on a dit aussi qu'il avait favorisé l'athéisme.
Oui, alors c'est ça, le point est que c'est une question très 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 compliquée celle-là.
Bon, alors on va pas l'aborder ce soir. On va pas l'aborder ce soir.
C'est très compliqué. Mais
par exemple, lorsque quelqu'un sent une douleur cuisante, la connaissance qu'il a de cette douleur est claire à son égard et n'est pas pour cela toujours distincte, parce qu'il la confond ordinairement avec le faux jugement qu'il fait sur la nature de ce qu'il pense être en la partie blessée, qu'il croit être semblable à l'idée ou au sentiment de la douleur qui est en sa pensée, encore qu'il n'aperçoive rien clairement que le sentiment ou la pensée confuse qui est en lui. Ainsi, la connaissance peut être claire sans être distincte, et ne peut être distincte qu'elle ne soit claire par même moyen.
Alors ça, c'est quand même assez intéressant aussi, hein, sur ce rôle joué par la douleur.
Oui, je suis renseigné sur mon corps, sur l'état de mon corps par la douleur, et il y a d'une manière générale, il faut que je sois attentif à tout ce qui se passe en moi pour me conserver en santé. Hein, il y a cette sorte de d'intérêt médical de Descartes pour sa propre
lui qui n'en avait pas une, il n'avait pas une, il avait plutôt une santé fragile, non?
Il avait une santé fragile, ouais, quand il était jeune, effectivement, ouais. Ouais. Mais il explique dans une très jolie lettre à Élisabeth que ensuite,
donc, Élisabeth, il faut dire qui est Élisabeth.
À la princesse Élisabeth, voilà, de Bohême, qui est une correspondante tout à fait remarquable. Voilà, privilégiée, mais une fille qui a reçu une éducation tout à fait extraordinaire et qui est la grande lectrice de Descartes, celle à qui il va dédier les principes de la philosophie de 1644, en vantant ses mérites, puisqu'en fait, elle comprend aussi bien les sciences, la géométrie, que la métaphysique. C'est vraiment la grande lectrice de Descartes. Mais il lui explique, ouais, qu'en fait, il a pu vaincre aussi sa santé très fragile, dont il avait hérité de sa mère, nous dit-il, grâce au fait qu'il a toujours essayé de voir les choses sous le meilleur angle, en fait. Et c'est aussi le conseil qu'il donne à Élisabeth.
Oui, parce que Élisabeth, elle était, enfin, a priori, elle était mélancolique.
Elle est mélancolique. Elle désigne elle-même sa maladie, et c'est la mélancolie. Et cette mélancolie, effectivement, elle a pour cause la tristesse. C'est un cas, c'est répertorié comme ça depuis l'Antiquité. Mais Élisabeth, elle est à la croisée de toutes les notions qui concernent la mélancolie au XVIIe siècle. C'est-à-dire que elle a des opilations de la rate, elle a la bile noire, la fameuse bile noire, mais elle a aussi la tristesse, et puis elle a aussi, en raison même de ses dispositions intellectuelles exceptionnelles, elle a un lien avec le génie. Et dans l'Europe du XVIIe siècle, les élites intellectuelles européennes sont souvent des mélancoliques. C'est un signe distinctif.
Et elle a joué un rôle, par exemple dans les Passions de l'âme, je crois, donc dans le traité des Passions de l'âme, ça vous l'écrivez. Elle a joué donc ce rôle, mais je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez peut-être pas me répondre, mais ils ont été un peu amoureux l'un de l'autre. Il y avait une grande différence d'âge.
Ça, moi,
ça vous fait rire, Denis Kambouchna, que je pose une question aussi naïve. C'est important quand même dans la vie.
Descartes aimait vraiment beaucoup Élisabeth. Oui. Bon, les sentiments d'Élisabeth, elle savait qu'elle avait affaire en Descartes à l'un des plus grands esprits de son temps.
Et oui, il était quand même pas mal, parce qu'il y a des tableaux le représentant, oui. Il a des cheveux longs, oui, bruns, ondulés, il a un très beau regard.
Je ne sais pas si c'était un si bel homme.
Oh,
En tout cas, il y a une relation très forte entre eux.
En tout cas, la complicité intellectuelle est exceptionnelle.
Vous me remettez dans la complicité intellectuelle.
C'est difficile de mettre un nom sur cette relation.
Bon, non, mais d'accord, on est bien d'accord. Oui.
Le principal effet de toutes les passions dans les hommes est qu'elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses auxquelles elles préparent leur corps.
Alors, Descartes et les passions, il y en avait 42, c'est ça?
pour lui. Il y avait 42
patients. C'est bien patients possible. Denis Cambouchner. On peut compter, oui, c'est une quarantaine.
Une quarantaine, donc c'est déjà pas mal.
Ça dépend.
Alors, comment est-ce qu'il faut les considérer? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, une échelle des patients? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'il faut les dompter? Est-ce qu'il faut les laisser...
C'est une grande question de l'époque. Descartes propose un traité des passions de l'âme à une époque où tout le monde, beaucoup en France, réfléchit sur les passions, les émotions. Et il propose donc sa propre classification dans un... On pourrait évoquer beaucoup d'autres classifications. Alors, il y a les passions qu'il appelle simples et primitives, qui sont la base. Il y a l'amour et la haine, la joie et la tristesse.
Et le désir, et puis...
Non, ça fait l'axis.
Ah,
et puis
oui,
d'abord, il y a l'admiration, c'est-à-dire ce que nous appelons l'étonnement. Et il est le premier, Descartes, à inclure l'étonnement, l'admiration, en ce sens de... Voilà. Dans le répertoire des passions, et comme la première de toutes, puisque si on n'est pas d'une certaine manière étonné, il ne se passe rien.
Voilà. Et le cœur va plus vite quand on est étonné.
Donc, on en revient à la
circulation sanguine.
C'est très important, effectivement, c'est le fait que nous soyons sujets à des passions. La vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si notre âme n'aurait pas sujet de vouloir demeurer jointe à son corps un seul instant si elle ne les pouvait ressentir. C'est ça, c'est formidable. Et bien entendu, il ne s'agit pas... Bon, il s'agit d'une certaine manière tout de même, s'agissant de nos passions, comme de notre corps, un peu de la nature autour, d'en rester un peu maître et possesseur. C'est-à-dire, il s'agit de contrôler ses propres passions, étant entendu que, comme Annie l'indiquait, s'agissant d'Elisabeth, il faut faire la guerre aux passions tristes, enfin aux passions que Spinoza, dont nous parlions tout à l'heure, appellera les passions tristes. Guerre à la mélancolie, guerre aux passions tristes, s'efforcer à chaque fois de se maintenir dans une espèce de contentement qui vient essentiellement de ce que on a conscience de bien faire ce qu'on doit faire.
Annie Bidol, vous êtes...
Ce qu'il y a aussi de très remarquable dans le traité des passions de l'âme, c'est que Descartes dit qu'elles sont toutes bonnes. Et ça, c'est vraiment une rupture par rapport à tous les traités des passions, et notamment à toutes les considérations médicales sur les passions. Car en fait, dans les traités médicaux, les passions sont à éviter. Les passions peuvent causer une ébullition dans le cœur, par exemple. Et alors, si on a une ébullition dans le cœur, c'est que véritablement, là, on est très proche de sa dernière heure.
Et là, on a beau fumer une cigarette, rouler une cigarette,
voilà,
rien n'y fera.
Prendre du tabac, non, ça ne va pas. Et s'agissant de la première passion, qui est l'admiration, il faut se souvenir que chez Descartes, ça n'est pas une passion à cultiver. L'admiration, c'est aussi ce qui fait que dans les sciences, si on admire, c'est qu'on n'explique pas. C'est qu'on ne va pas chercher à expliquer.
Il faut éviter l'excès d'admiration.
Exactement, il faut absolument éviter l'excès d'admiration. Et ça, c'est absolument fondamental et on en tire des conséquences extraordinairement importantes en médecine, puisque dans la tradition médicale, c'était toujours des éloges envers les organes du corps humain. Chez Descartes, il n'y a pas d'éloge envers le corps humain. D'accord ?
Jeanne, je suis obligée de vous interrompre parce qu'on va écouter Jeanne Chéral. Oh. Jean comme le prénom. Vous écoutez bien leur philo.
Jean, j'en ai marre de rêver de vous. Jean, j'en ai marre de parler de vous. Jean, j'en peux plus de ne penser qu'à vous. Jean, on est connu. Charmant. plains. De tout ça, vous ne savez rien, Jean. Terre ici comme un petit chien, Jean. Mon secret tout au fond du jardin. Jean, est-ce la ligne de votre cul, Jean? Ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean, que la vie vaut d'être vécue?
Descartes, René Descartes, a inspiré le philosophe Nathan Devers.
Simone de Beauvoir, dans un livre qui s'appelle « La morale de l'ambiguïté », avait une phrase sur Descartes. Elle disait « Le malheur de l'homme pour Descartes, c'est d'avoir été enfant ». Je crois que c'est une phrase extrêmement juste. Descartes voit bien la manière dont, bon, évidemment, dans l'enfance, les idées par l'éducation sont imposées aux individus. Descartes voit bien la manière dont les philosophes, pour la plupart, les philosophes de l'école, les philosophes de la tradition, sont des gens qui sont, en un sens, restés des enfants toute leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais remis en cause, ils n'ont jamais eu l'adolescence, ils n'ont jamais eu le geste radical du doute et de la solitude et de l'isolement et du questionnement, de remettre en cause tout ça. Et en un sens, Descartes marque peut-être dans l'histoire de la philosophie le passage à l'âge adulte du désir de philosopher.
J'en profite pour vous dire que Nathan Devers ainsi que Lionel Nakache seront nos invités le 28 février prochain. Ce passage à l'âge adulte du désir de philosopher, ça vous inspire quoi, Denis Combouchner, au sujet de Descartes?
Je dirais que c'est séduisant, mais c'est un peu trop dire, parce qu'il y a eu beaucoup de philosophes adultes avant Descartes. Oui. Pensons ne serait-ce qu'aux géants de l'Antiquité, Platon, Aristote, et on a eu un certain nombre d'autres, et à leur suite. Et donc, oui, c'est vrai, pour Descartes, nous devons nous défaire d'une certaine condition d'enfance. Donc, il le dit à plusieurs reprises, une fois dans sa vie, reconsidérer enfin, les fondements de nos opinions, et en tout cas ne pas nous en tenir à nos opinions accoutumées. Essayer de chercher ce qui est véritablement certain. Donc ça touche aussi à notre image de nous-mêmes, ça touche à notre idée de notre vocation, de notre devoir, ça touche aussi à l'image que nous avons du monde.
Qu'en pensez-vous, Annie Bidbol-Espériès?
Oui, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Denis. Hein. Vraiment, je pense que... Enfin, Descartes n'est pas le premier pour ce geste-là. Il n'y a pas de doute. Mais il est le premier pour nous dire que nous devons apprivoiser les sciences et que les sciences doivent être fondées.
Et avec lui, est-ce que vous diriez que la philosophie, au fond, s'adresse à tous? Et est-ce qu'il est lisible? Il a écrit en français, il a écrit en latin, mais il a écrit en français, vous le disiez tout à l'heure, Annie Bidbol-Espériès, pour être compris du plus grand nombre, y compris des femmes d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est lisible pour aller, puisque je vous demande ça, parce que quand même, vous venez de diriger cette nouvelle publication dans l'édition de la Pléiade de César.
C'est le style du XVIIe siècle,
oui.
C'est-à-dire c'est un style exigeant.
Oui.
Il écrit, lui, Descartes, de manière scrupuleusement claire.
Oui.
Mais c'est toujours très structuré. Donc ce sont des phrases complexes. Donc il faut apprivoiser le style
il
de Descartes.
Faire,
mais
il faut faire marcher
disons
son cerveau.
Il faut feuilleter et on trouvera
on
son bien.
Très bien. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus. C'est déjà terminé. Il y a donc cette édition de la Pléiade. Annie Bidbol-Espériès, l'édition critique de Baillet, c'est aux belles lettres. Aux belles lettres aussi, Descartes n'a pas dit, de Denis Combouchner, ainsi que la question Descartes, qui est publiée en folio.